Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Andy Wa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andy Wa. L'émission est également mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Alex Chauvel, bonjour.
Bonjour.
Et de Gauthier Ducaté, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler d'une publication qui sort ces temps-ci et qui s'intitule « Les pigments sauvages ». Une édition de Uchikuchi. Avec Gauthier Ducaté au studio pour nous en parler. Et puis donc Alex Chauvet, auteur et dessinateur aussi de ce livre. Alors, comment peut-on définir justement les pigments sauvages à vos yeux, Alex ?
Bon, c'est une bande dessinée. Une bande dessinée expérimentale. Un petit peu dans la mise en page, mais c'est avant tout un récit épique, politique et biologique qui parle de l'effondrement d'un empire, donc l'empire des lémures. C'est un nom que j'ai pris à la mythologie romaine, parce que les lémures sont des spectres dans la mythologie romaine. C'est un mot que j'aime bien. Et donc j'ai créé ces petits personnages qui sont parfois ils sont un peu comme des humains, mais parfois ils sont un peu comme des fourmis, et parfois ils sont un peu comme des virus. Et leur empire s'effondre, et on suit les survivants, et certains veulent refonder l'empire comme il était, avec toutes ces injustices. Et d'autres veulent chercher autre chose, quelque chose de différent, qui serait un peu plus harmonieux, un peu moins parasitique. Et voilà. Et donc ça raconte la lutte entre ces visions du monde.
Il y a un aspect baroque hein, dans cette présentation de ces personnages, de ces décors. Moi, j'approcherais aussi l'art primitif dans les personnages, un peu, comment dire, géométrique, avec un minimum de signal, de signifiant du visage ou du personnage. Justement, comment se sont conçus tes personnages, cet aspect de dessin ? Est-ce que tu es parti sur des bases qui t'ont inspiré ?
Bon, alors déjà, effectivement, c'est une excellente remarque. J'aime beaucoup, beaucoup les arts premiers, l'art pariétal, ce sont des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup nourri. Je ne suis pas forcément extrêmement impressionné par la technique. C'est vrai que je ne vais pas forcément admirer un dessin parce qu'il est incroyable de justesse en termes de perspective ou d'anatomie. Tout ça, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'aime bien le dessin quand il est assez minimal et presque pris comme une écriture parfois. Et donc là, par exemple, c'est vrai que ces lémures, ils sont tous un peu déclinés autour de la forme rectangulaire. C'est tous des rectangles, mais du coup, c'est tous des variations autour du rectangle. Et donc, j'ai dessiné beaucoup, beaucoup de petits personnages. Ils sont un peu tous pareils, quoi. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de varier les formes et les tailles. Des rectangles et de les retravailler donc j'en ai fait plein et puis de temps en temps il y en avait un qui s'imposait où il avait une forme, il avait tout de suite une personnalité qui s'imposait de par la forme. Et quand j'en ai eu suffisamment, certains avaient déjà leur psychologie, on va dire, qui arrivait en même temps que leur forme, et c'était du coup beaucoup plus facile de partir d'une histoire avec eux, parce qu'ils avaient déjà presque leur vécu. Moi, il faut savoir, j'improvise beaucoup mes histoires. Et donc, quand je trouve un personnage qui est graphiquement intéressant, il arrive presque tout fait à sa façon. Et donc, bien sûr, tout est à découvrir, donc à créer. Mais c'est comme si, finalement, tout était déjà là. Il fallait juste aller rechercher qui est ce personnage qui nous arrive comme ça devant, quoi.
Pour concevoir cette histoire, il y a une histoire d'abord. Est-ce que c'est l'histoire qui a créé les images ou comment se sont imbriqués les deux ?
Alors, c'est une question... c'est pas si facile d'y répondre. Alors déjà, il faut rendre... on parlera du travail de Gauthier en tant qu'éditeur, parce que moi, je pense qu'il a beaucoup à voir dans cette histoire. Parce que, comme j'ai dit, j'improvise beaucoup. Et le risque, quand on improvise, c'est qu'on peut aussi parfois s'égarer un petit peu. Et donc, cette histoire, elle est structurée autour de... Donc, il y a 7 chapitres principaux. Qui sont entrecoupés d'interscènes qui viennent mettre une espèce de carcan, de contexte, de perspective à ces chapitres. Et donc c'est vrai que moi j'ai commencé par faire mes chapitres l'un après l'autre. Et bien sûr, Gauthier, en lisant, a repéré des choses qui n'allaient pas en termes de rythme, de compréhension. Donc il a fallu un petit peu rajouter des pages ou en enlever d'autres, enfin ce genre de choses. Et puis, surtout, il avait insisté sur le fait qu'effectivement, ce serait peut-être pas mal d'avoir un contexte, d'où l'arrivée de ces interscènes à la fin, hein, sur la dernière ligne droite, ou l'avant-dernière, disons, qui sont venus rajouter un propos, vraiment, encapsuler comme ça, cette espèce de narration brute. Et moi-même, j'ai vraiment, vraiment compris ce que je faisais avec ce livre que vers la fin. Enfin, c'est-à-dire, on y va avec l'honnêteté qu'on peut et avec ses tripes, en fait. Mais on n'est pas toujours très bien conscient de ce qu'on est en train de faire. On sait que c'est juste, on ne sait pas pourquoi, mais on y va, quoi. Et donc, l'apport de ces interscènes, qui sont graphiquement peut-être pas les plus intéressantes, mais qui, je pense, sont, d'un point de vue narratif, elles tiennent tout, quoi. Donc, l'apport de ces scènes. Et ensuite, aussi, quelque chose de tout à fait technique, mais le fait d'avoir construit une police de caractère, pour moi, ça m'a permis d'enlever tout le texte que j'avais écrit à la main dans les bulles, de le remplacer et donc de l'améliorer, de changer un terme parfois pour affiner, pour fluidifier la lecture. C'est-à-dire toute l'écriture, c'était un processus d'affinage à partir de ces espèces de blocs extrêmement bruts d'histoire, quoi.
Les planches qui sont composées sont établies comment ? Sur papier ? Parce qu'il y a parfois des auteurs qui travaillent aussi sur le numérique.
J'ai voulu travailler sur papier parce que ça, c'est l'autre chose quand on improvise un petit peu, c'est qu'on est en danger. Et on se met en danger, bien sûr, puisqu'on ne sait pas où on va. Et donc, faut pas y aller à moitié, quoi. Et c'est-à-dire qu'à la fois se mettre en danger dans l'histoire tout en se mettant en sécurité avec le numérique, puisque avec le numérique, on peut changer chaque trait, un trait qui ne plaît pas... on l'efface et on le refait. Et moi, je voulais au contraire avoir toujours être dans une espèce d'état de tension où je pouvais toujours me tromper dans un truc d'équilibriste comme ça. Ça allait de pair. Donc effectivement, c'était important pour moi de faire cette bande dessinée sur papier. Je dessine sur format numérique pour d'autres projets, mais cette bande dessinée-là, il fallait qu'elle soit sur papier. Les couleurs ont été faites après en numérique, ce qui me permettait de jouer sur les différentes ambiances de couleurs. Certaines planches, à l'arrivée, ne sont pas du tout dans les couleurs que j'avais pensées au départ. Ça a changé en cours de route. Bon, mais c'est un autre travail, la couleur. Mais le dessin, ouais, il a fallu que ce soit sur papier.
Gauthier, donc, d'après Alex, tu as pu assister sa conception de cet ouvrage. Toi, ton expérience d'éditeur te permet justement d'aider les auteurs, dessinateurs, à composer leur ouvrage.
Alors, le travail d'éditeur, moi, je le compare souvent au travail de sage-femme. Un artiste arrive avec un projet en gestation et l'idée c'est de faire en sorte que le bébé soit beau, se porte bien et la maman aussi. Du coup, il y a toute une attention en fait qui est requise et puis une fois que le bébé est là, en fait, on laisse pas le bébé et la maman dans la nature. Il y a un accompagnement qui se fait. Donc là-dessus. Des fois, il y a des grossesses très simples. Des fois, il y a des grossesses un peu plus compliquées. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont moins belles. C'est vrai que du coup, par rapport à pas mal d'autres projets, j'ai été assez interventionniste dans le travail que j'ai fourni sur les pigments sauvages avec Alex. C'est aussi parce que Alex m'a autorisé à prendre cette place-là. Et puis qu'on a énormément discuté aussi au préalable des objectifs un peu qu'on se fixait sur ce nouveau livre, là où on avait envie d'emmener l'écriture d'Alex et sa place au catalogue de The Uchikuchi. Donc ça, c'était vraiment le premier diapason en fait qu'on avait avant même de mettre les mains vraiment dans le projet, quoi.
Alex, avant de vous lancer dans la conception de livres dessinés ou de bandes dessinées, quel était votre cursus universitaire, si vous en avez suivi un, qui vous ont d'ailleurs peut-être permis aussi d'avoir ce regard, ce panorama sur l'humanité quelque part?
Alors, déjà, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. C'est vrai que je crois qu'il y a deux types d'auteurs et d'autrices. Il y a ceux qui veulent faire ça depuis qu'ils sont tout petits et ceux qui se découvrent vers l'âge de 25 ans, 20-25 ans, ils se découvrent une vocation. Moi, je fais partie de la première catégorie. J'ai toujours voulu faire ça. Donc après, j'ai fait des études en ayant un peu toujours en tête que quand même un jour, je ferais de la bande dessinée, même si ces études n'avaient rien à voir forcément. Et donc, après un bac scientifique, je suis parti en prépa littéraire, Hippocagne, où j'ai appris énormément de choses sur la littérature, sur la philosophie, sur l'histoire. Tout ça m'a beaucoup plu, le latin beaucoup aussi. Donc, j'aime beaucoup la culture classique. Et en même temps, j'avais quand même ce petit goût pour la biologie depuis le début, la biologie, la microbiologie qui nourrit aussi chacun de mes livres. Et donc, après cette prépa littéraire, après un an de césure où je travaillais, je ne savais pas trop quoi faire, j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui a fait les Beaux-Arts d'Angoulême et qui m'avait dit « Pourquoi tu ne ferais pas les Beaux-Arts d'Angoulême ?» Et moi, je croyais être beaucoup trop vieux, j'avais 22 ans, donc pour moi, c'était trop tard, quoi. Et il m'a dit « Mais non, moi aussi, j'avais 22 ans quand je suis rentré aux Beaux-Arts. » Donc, je dis « Oh, super !» Et donc, je suis parti aux Beaux-Arts d'Angoulême. J'y ai passé 5 ans. J'ai fait un Erasmus en Allemagne. Et maintenant, j'habite en Allemagne. Et ça, c'est important parce que, de par mon passé de cagneux, je n'avais pas vraiment de problème pour parler, pour expliquer n'importe quel projet, pour l'accompagner d'un discours, pour l'encercler. Et en fait, je voulais sortir de ça. Je voulais me rapprocher vraiment du dessin, que le dessin se solidifie, qui gagne en autonomie. Et donc c'est vrai que c'est un peu un mélange de plein de choses, quoi. C'est un mélange de culture culture classique, littéraire, un mélange de goût pour la biologie, de fait de vivre en expatrié, et puis de beaux-arts traditionnels, bien sûr. Enfin, voilà, c'est un mélange de tout ça.
Vous êtes aussi passionné d'anthropologie, semble-t-il. Et d'ailleurs, le titre, comme vous l'indiquez, est un clin d'œil à La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. C'est un ouvrage qui vous a marqué ?
Oui. Alors, La pensée sauvage, ou peut-être même plutôt anthropologie structurale. Enfin, mais les deux m'ont de toute façon marqué. J'en ai lu quand même plusieurs des livres de Lévi-Strauss. Certains étaient passionnants, d'autres étaient un peu rébarbatifs, mais bon, ça c'est normal. Et puis après, d'autres anthropologues. Alors je connais mal les contemporains, hein, d'Escola, et tout ça, je ne connais pas très bien, mais j'ai lu un petit peu plus les anciens. Et alors après, le titre, c'est là où on va revenir sur le travail de Gautier, c'est qu'en réalité, le titre, c'est Gautier qui m'a aidé à le trouver, enfin qui l'a trouvé tout simplement. Parce que moi j'étais un peu perdu, je ne savais pas, j'ai cherché des titres qui n'étaient pas passionnants, quoi. Et j'avais ce goût pour la lecture de livres d'anthropologie, j'aimais beaucoup ça, mais c'est vrai que c'était peut-être pas forcément extrêmement conscient. Enfin, c'est-à-dire, je savais que j'aimais ça, je savais que ça avait un impact sur mon travail, mais je le minimisais peut-être. Et Gautier m'a dit, mais quand même, tu as ce goût pour l'anthropologie, ce serait bien que ça ressorte aussi, que ça se voit dès le titre. Et du coup, on a fait chacun des listes de titres, et puis ce titre-là a gagné haut la main, parce qu'il était à la fois déjà très beau, hein. Moi je trouve que c'est un très beau titre, et je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai trouvé, donc il n'y a pas de fierté mal placée. C'est un titre qui est à la fois très simple, C'est pas un titre compliqué avec plein de mots, comme mon livre précédent, Todd le géant s'est fait voler son slip. Et puis, c'est un titre qui, effectivement, rappelle la pensée sauvage, qui est un livre... c'est quand même un des plus connus de Lévi-Strauss. C'est pas un obscur essai qu'il aurait publié dans les années 50. Donc, il avait énormément de qualité, ce titre, ouais.
Qu'est-ce que vous pensez avoir découvert par lui, par ce texte, ce livre? Qu'est-ce qui vous a permis peut-être de travailler sur les pigments sauvages ou de retranscrire peut-être ce que vous avez retenu de ce livre?
Alors, peut-être pas ce livre-là en particulier, mais... Et alors là, c'est là où ça devient gênant, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, mais le titre, c'est peut-être le seul titre dont je ne me rappelle pas très bien. Ah si, je crois, Histoire de lynx, qui m'a vraiment marqué quand je l'avais lu, parce qu'il avait une espèce d'ambition comme ça, presque de cartographier les mythes, de les mettre tous ensemble sur un schéma où les mythes se recoupaient les uns avec les autres. Avec tel mythe qui occupait telle place dans la pensée, dans le système de pensée de je ne sais plus quel peuple d'Amérique du Nord, et puis tel autre mythe qui venait occuper telle place et qui se faisait écho l'un l'autre. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, que les personnages des mythes et les mythes eux-mêmes se faisaient pendant les uns avec les autres. Des fois, ils passaient aussi d'un peuple à l'autre en miroir, en mode miroir, enfin, et d'espèces de mélange de cartographie et de possibilité de malaxer les mythes, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et je pense que c'est surtout pas forcément une idée précise, c'est plus une façon de travailler les histoires qui sont toujours à moitié inconscientes. C'est ça qui m'a le plus marqué, je crois.
Gauthier, justement, par rapport à cet ouvrage, le titre « Les pigments sauvages », c'est une idée qui était une évidence par rapport à quoi ?
Alors en fait, c'est assez drôle, puisque l'évidence a fini par s'imposer, mais ce n'était pas une évidence. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Alex avait des titres provisoires, mais on sentait qu'il n'y avait pas... En fait, le titre doit révéler l'essence du livre sans dévoiler trop. Il y a une espèce de pudeur essentielle. C'est assez curieux, quoi, ce travail-là. Et en fait, la base des recherches sur le titre vient d'une partie des méthodes de travail qu'on a avec Alex. Où effectivement, donc là, on vient d'évoquer tout ce qui est de l'ordre de l'anthropologie, en fait d'une culture classique, on va dire, où on échange énormément là-dessus, mais on est amateur de calembours aussi, donc on fait des jeux de mots, quoi. Et puis moi, sur un petit jeu de mots comme ça, je lui dis « Ah, bah, tu pourrais faire une espèce de déclinaison de grands titres de l'anthropologie, et je t'avais balancé les rois de Thulé tous. Voilà, donc désolé, c'est voilà, gros calembour. Et vu qu'on n'y arrivait pas, je lui ai dit, bah, écoute, faisons chacun de notre côté une liste, et puis on va bien voir ce qu'il en sort. Et du coup, je commence à réfléchir, Pierre Clastre, Mircea Eliade, ainsi de suite. Et puis, bon, bah, forcément, Claude Lévi-Strauss s'invite dans la ronde. Et ce titre-là, j'avais fait une liste et je l'avais mis de côté, pensant que ça ne conviendrait pas. Et sauf qu'en fait, il restait de côté, il restait seul. Et finalement, j'ai viré la liste et j'ai gardé celui qui restait seul. Parce qu'il a ce potentiel poétique, il a cette référence... effectivement, il touche à l'essence du livre, c'est-à-dire que l'affaire des pigments, en fait, renvoie à une caste qui évoque la civilisation, en fait, pour les lémures, donc les personnages principaux du livre. Et en fait, plus que l'effondrement de leur empire, c'est toute leur pensée qui s'effondre quand ils commencent à rencontrer leur alter ego sauvage, en fait. où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bien plus avancés, même s'ils ont construit une société complexe, finalement. Et effectivement, bah, tout était là, et ça s'est assez vite imposé dans les discussions.
Alex, en début d'émission, vous disiez être passionné d'histoire ancienne et de mythes. Pour vous, ces textes classiques sont une grande source d'inspiration. Et justement, vous parlez de miroir avec les auteurs et les écrivains de nos jours. Est-ce que vous y voyez une corrélation, justement, ce miroir ?
Alors, sur la première question, oui, c'est une grande source d'inspiration. J'essaie de relire de temps en temps l'Iliade et l'Odyssée parce que ça marche toujours, quoi. Et puis bon, Hérodote sera toujours dans mon cœur. De par justement sa place un petit peu étrange, puisqu'il est à la fois à l'aube de la pensée historique, et en même temps, il est lui-même encore pris dans un monde de mythes, et il est comme ça dans une période de clair-obscur qui est fascinante. Donc, soit ça, soit les auteurs contemporains qui ont parlé de cette période. Je pense par exemple à Jean-Pierre Vernant, quand il retranscrit la pensée des Grecs, des âges obscurs, comme ça, c'est tout à fait passionnant. D'où ça vient finalement cet intérêt des Grecs pour la philosophie ? Il ne sort pas de nulle part. Il sort aussi de transformation de leur cosmos, ou disons de leur pensée politique. C'est-à-dire il y a un changement de société qui entraîne un changement de pensée, qui va amener une façon de manipuler comme ça les concepts qui étaient nouvelles. Donc voilà. Et après, sur la question du miroir, alors là, j'ai pas très bien compris.
C'était en liaison avec justement ces deux peuples qui se croisent, un qui est plutôt primitif et l'autre d'une société avancée, et qui ont en même temps une certaine égalité. Voilà, et je voulais savoir s'il y avait justement cet aspect en lien avec l'histoire.
Ouais, alors ça, c'est très intéressant parce que moi, je pense que de toute façon, un livre, ça ne se fait pas tout seul. Il y a un processus collaboratif. Ma compagne a une importance énorme aujourd'hui dans l'élaboration de mes livres. Elle n'est pas là actuellement, mais parfois, j'ai même l'impression que le livre s'est fait un petit peu à trois, entre ma compagne, Gauthier et moi.
Je partage cette impression.
Sachant qu'en plus, elle est graphiste, donc elle a eu sa main sur la couverture. Mais donc un livre, ça se fait à plusieurs. Et le titre, Les pigments sauvages, il n'est pas arrivé à la toute fin. C'est-à-dire qu'il y avait encore des travaux de correction de couleurs, beaucoup. Et puis, les interscènes n'avaient pas été dessinées, tout ça. Donc en fait, d'avoir ce titre qui a donné une espèce de perspective sur le livre, ça m'a fait, a posteriori, retravailler des choses que je n'avais pas forcément bien prévues à l'origine. Et notamment, j'ai rajouté... le peuple sauvage avait déjà ses peintures sur le corps, qui sont donc une utilisation des pigments qui est autre, puisque je voulais montrer que finalement, ce qui définissait la société lémure, effectivement, et qui pensait, dont ils avaient l'apanage, finalement, bah, c'était déjà présent chez ceux qu'ils appellent les lémures sauvages. Mais en fait, j'ai fait aller cette histoire encore plus loin, je l'ai fait remonter carrément aux sources pour en faire quelque chose d'absolument indissociable de leur histoire. Biologique. Donc il y a quelque chose qui peut sembler un peu fumeux ou peut-être un peu complexe à expliquer, mais il y a une espèce de d'alignement comme ça des planètes où on a une idée qui est pas toujours très claire. Il y a quelqu'un qui a un regard dessus et qui dit non, tu veux pas les faire partir par là, et on se rend compte que en fait ça marche très bien. Et on y va. Le risque quand on improvise autant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle. Hein. Je veux dire, pour un livre que je finis, il y en a quand même pas mal que je commence et qui vont pas plus loin. Et un livre, il est fini quand je sens, et c'est très difficile à expliquer, quand je sens que je tiens quelque chose qui va m'amener au bout d'une pensée qui est pas encore très claire, et que je réussirai à formaliser cette pensée à la fin. C'est quelque chose qui s'était passé avec Todd le Géant. Todd le Géant s'est fait voler son slip, qui a un tout autre mode d'écriture, mais qui s'est aussi imposé progressivement et où j'ai eu des moments comme ça d'épiphanie où j'avais l'impression que le système commençait à avait un temps d'avance sur moi, où j'écrivais presque en écriture automatique et l'histoire se structurait. Et avec les pigments, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait un petit peu malgré moi, avec tout de même ce goût. Moi, je suis normalement quelqu'un qui aime beaucoup les règles, les méthodes et les structures, donc j'ai pas envie non plus de partir dans quelque chose de foutraque qui est impossible à suivre. Il faut qu'il y ait ce... Enfin, on écrit quand même pour d'autres personnes, il faut que ce soit agréable à lire, quoi. Et donc cette espèce de combat constant entre une volonté de contrôle par la structure et de laisser aller par l'improvisation, quand ça se passe bien, ça donne un livre... c'est-à-dire, par exemple, j'avais une idée de fin pour ce livre qui a complètement volé en éclats et je suis parti sur une toute autre fin qui marchait beaucoup mieux parce que quelque chose avait pris comme ça et il fallait suivre et en même temps, il fallait aussi écouter les avis des autres. Voilà, je suis navré si la réponse est un peu confuse, mais...
Ma question l'était peut-être aussi, non? Et justement, par rapport au graphisme, à l'esthétique de l'ouvrage, contrairement à la bande dessinée qui est en général plutôt dans le figuratif, avec une représentation plutôt classique des personnages, là, vous inspirez aussi des arts plastiques, de l'art contemporain, mm-hmm. en citant quelques auteurs comme Sol Lewitt ou François Morlaix mm-hmm. ou Fischler & Weiss. Mm-hmm. Pour vous, c'est aussi une nouvelle manière de représenter et de peut-être remettre au goût du jour la bande dessinée.
C'est-à-dire, moi, je pense que la bande dessinée, elle a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'elle est assez difficile à définir quelque part, parce qu'il y a des gens qui vont arriver en disant que c'est de la littérature sur papier, et ils vont parler de romans graphiques notamment. Il y a des gens qui vont parler de peinture, et on va avoir des auteurs qui sont très plastiques. Il y en a qui vont parler de cinéma aussi, beaucoup de cinéma de papier. Donc ça, c'est aussi peut-être grâce ou à cause de l'influence de Hergé au début du XXe siècle. Mais moi, je pense que la bande dessinée, c'est surtout un art pirate qui se nourrit de tout et qui, de par la... C'est-à-dire, c'est un dispositif qui est quand même très facile. À la fin, c'est un stylo, du papier. Donc il y a très peu de filtres. Ce n'est pas comme un film qui se fait avec des centaines de personnes impliquées où chacun a son mot à dire. C'est un processus... Qui passe par une espèce de lissage comme ça de beaucoup de points de vue. Ce qui a ses côtés très intéressants aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le cinéma, c'est nul. Heureusement. Mais je pense que la bande dessinée, de par sa modestie, elle peut se nourrir de beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et plus elle se nourrit, et plus elle est intéressante aussi. Plus on la re-questionne. Et ça, on revient justement à l'apport des Beaux-Arts d'Angoulême, qui n'était quand même pas une école de bande dessinée, c'était une école d'art, de manière générale, avec une option bande dessinée. Avec un peu une guerre entre les profs, mais bon, on ne va pas perdre de temps à parler de ça. Mais moi, j'étais très friand en arrivant aux Beaux-Arts. Je ne comprenais pas ce que c'était l'art contemporain, comme n'importe qui n'a pas eu de formation. Et donc, j'avais envie de comprendre cet art contemporain, ou disons quelques-uns de ces arts contemporains, parce que c'est quand même très compliqué à définir l'art contemporain, peut-être encore plus compliqué que la bande dessinée. Et puis forcément, il y a des travaux qui nous parlent plus que d'autres. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Morlaix pour ces espèces de règles, ces systèmes qui sont un peu parents, quelque part, de l'Oulipo, de ce genre de choses. Il se met une contrainte comme ça de travail et il fait son œuvre à partir de ça, quoi. Ou Sol Lewitt, parce que je crois simplement Sol Lewitt, c'était même pas du tout une particulier, c'était juste, je trouvais ça tout simplement très beau. Et Fischli et Weiss pour leur côté narratif, c'est hilarant, les travaux de Fischli et Weiss, et ça fait du bien aussi de voir des œuvres hilarantes, enfin c'est parfois c'est à mourir de rire, ouais. Donc tout ça, quoi.
Dans les prochains temps, à partir de jeudi, donc, il y aura un vernissage à 18h et ça se passera à la galerie Uchikuchi à Die. Hein, c'est le code numéro déjà, 43 rue Camille Buffardel. La veille, il y aura aussi aux Espélines à Vassieux un vernissage aussi, en quelque sorte. Dans quel cadre ça se présentera là ?
C'est plus une rencontre en fait. L'an dernier, Cyril et Sarah ont repris le gîte des Espelines à Vassieux. Cyril est venu me voir en me demandant des livres parce qu'ils avaient une pièce en plus du gîte qu'ils voulaient transformer en librairie cave à vin. Et puis moi j'ai beaucoup apprécié son côté curieux et j'ai eu envie de, enfin qu'on commence à travailler ensemble. Donc là c'est la troisième rencontre qu'on fait où on monte aux Espelines avec les livres, avec l'auteur. Il y a une discussion qui se fait en présence de l'auteur. Donc c'est pas une séance de dédicace en tant que telle, c'est vraiment une discussion qui a duré plus de 2 heures quand Marcel Reuster était venu en avril, qui était un peu plus courte avec l'intervention de Gérald Auclin. Mais ce que je trouve appréciable, c'est que c'est vraiment le côté table ronde, c'est assez chaleureux. C'est pas nécessairement un grand public, enfin un public très nombreux, mais il y a des questions vraiment très pertinentes qui arrivent. Et puis le cadre est super agréable, quoi. On est à côté de Fondure, c'est une librairie, mais aussi une cave à vin, donc on peut boire un coup. voilà.
Il y fait frais aussi.
Et il y fait frais, on est à côté de Fondure.
Je connais pas.
C'est très, comment dire, on va dire que c'est aéré. Fondure porte bien son nom, c'est un télescopage de vent permanent. Et du coup, des fois, ça se déplace sur le village de Vassieux. Donc oui, il est fait plus frais qu'Adi.
Et à partir donc de ce 28 juillet, ce vernissage à 18h, c'est une exposition de planches de bandes dessinées qui seront exposées. Justement, ce sont les planches de cet ouvrage.
Oui, tout à fait. Ce que j'ai pas dit, c'est que donc j'ai dit j'avais 7 chapitres, mais avec ces entrescènes, mais chaque chapitre a une espèce de principe graphique un peu différent, et donc dans certains cas il y a des chapitres qui sont faits pour pouvoir être mis en frise comme la tapisserie de Bayeux, ce qui est quelque chose qui est complètement invisible dans le livre, mais j'aime bien le fait qu'il y ait des dimensions cachées dans les pages comme ça, qui puissent se révéler dans d'autres contextes, sur d'autres supports. Ça c'est encore quelque chose qui est peut-être héritier de cet intérêt pour l'art contemporain, les expositions, et donc voilà, il y aura des choses comme ça, quoi.
Ces pigments sauvages, est-ce que, en regardant la fin du livre, on pourrait penser à une certaine continuité de quelque chose ?
Par rapport à ce qui se prépare dans le futur ? Alors, de toute façon, chaque livre nourrit ses successeurs et est nourri par ses prédécesseurs. Moi, j'ai l'impression, justement, quand quelque chose se passe bien et que le livre arrive jusqu'au bout, j'ai l'impression d'avoir résolu une question personnelle et donc de plus forcément être la même personne à l'arrivée qu'au départ. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de questions. Ça veut simplement dire que de nouvelles questions surgissent. Et effectivement, ça m'entraîne sur le prochain travail. Là, j'ai très envie de... On a commencé d'en parler avec Gauthier. J'ai très envie de travailler sur le personnage de Conan le Cimérien, donc plus connu sous le nom de Conan le Barbare, qui est, je pense, un personnage absolument fondamental dans la culture populaire, qu'on s'en rende compte ou pas. Enfin, il a une importance monstrueuse. Au-delà même du simple personnage, je pense qu'il en dit énormément sur le rapport entre barbarie et civilisation, l'image du barbare pour le civilisé. Et puis aussi sur l'image d'une masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai mâle, quoi. Qui est aussi une question qui est un petit peu en filigrane dans les lémures, mais dans les pigments sauvages. Mais ça, je vais pas développer plus loin parce que j'ai envie que ça reste un petit peu une surprise pour les gens qui auraient envie de lire le livre. Mais je pense que toutes ces questions, j'ai le sentiment, alors c'est peut-être un peu tôt pour pouvoir répondre avec beaucoup de clarté à cette question, mais j'ai le sentiment que les pigments sauvages ont ouvert des questionnements que j'ai envie de prolonger dans ce futur livre autour de Conan le Cimérien. Ouais.
Les personnages dans Les Pigments Sauvages semblent asexués. Est-ce que c'est surtout des vues d'esprit donc, qui sont dessinées
Alors, ils sont graphiquement asexués et pourtant, je crois que la sexualité est très présente. Ou disons, elle est sous-entendue, mais c'est surtout la question de la reproduction qui est centrale dans le livre. Bon, mais du coup, je vais être obligé de dire ce que je n'avais pas envie de dire. Mais il faut savoir que c'est quand même un peuple de parasites qui, avec des petites cornes comme ça. Et donc, c'est grâce à leurs cornes qu'ils peuvent se reproduire en inséminant d'autres créatures. Donc, c'est littéralement des parasites. Et donc, c'est vrai qu'ils sont à la fois asexués et en même temps, ils ont quelque chose d'extrêmement puant, de quelque chose de désagréable, tout en étant extrêmement sympathiques au demeurant. Hein. Certains d'entre eux, j'irais bien boire des coups avec eux, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose de pourri dans leur système. Je pense que... De toute façon, c'est un livre qui est arrivé au moment où moi-même j'ai eu des enfants, où je me suis posé des questions par rapport à la transmission, à la reproduction, puis des questions plus générales qui sont arrivées, qui étaient de l'ordre de la libération de la parole pour... liées au mouvement MeToo, etc. Et finalement, comment certaines choses n'étaient pas forcément très prises en compte et très conscientes chez les individus masculins. Et tout ça s'est un petit peu télescopé. Ouais.
Vous disiez auparavant, pour les deux livres, Todd et Les Pigments Sauvages, vous aviez tenté ou de créer d'autres bandes dessinées qui n'ont pas abouti. Pour vous, ce sont des échecs établis ou alors vous y reviendrez peut-être pour les reformuler ?
Alors non, pas des échecs, parce que j'arrive toujours à recycler quelque chose quand même. C'est-à-dire, là, Les Pigments Sauvages, on va dire que c'est la quatrième version. Et les précédentes versions ont chacune amené quelque chose, et notamment la troisième... en fait, je peux complètement. Alors, il n'était pas du tout question de lémures ou de. C'était plus des espèces de mécaniques ou de thématiques centrales, fondamentales du récit. Et je suis en train de reprendre la troisième et de la retravailler complètement différemment pour faire une bande dessinée numérique, une bande dessinée à choix multiples, où on a un personnage comme ça qui fait des choix, qui se transforme physiquement, il se transforme en autre chose, ce qui lui permet de se recroiser ensuite, de faire plein de paradoxes temporels. Comme ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Et. Voilà, ça va être un travail tout à fait différent, sur lequel je m'amuse beaucoup, je veux dire, actuellement, parce que ça me permet aussi de faire des gifs animés, des choses comme ça. Donc, c'est un tout autre travail qui me plaît beaucoup.
Tu voulais intervenir. Mmh. Donc, on peut passer aussi à Todd, le géant s'est fait voler son slip. En quoi ce livre préparait le suivant, Les Pigments Sauvages ?
Je pense que Todd, c'est le livre d'un jeune type de moins de 30 ans qui cherchait un petit peu son territoire intellectuel, on va dire. C'est-à-dire, j'ai improvisé des toutes petites cases, hein, 4 cm sur 4 cm, c'est très petit. On en verra quelques-unes à la galerie, justement. J'ai ramené quelques cases qui ont été improvisées, alors même pas dans l'ordre de publication, j'ai juste improvisé quelques cases que j'ai envie de faire. Puis j'ai rajouté d'autres cases pour fluidifier le récit, pour vraiment que l'histoire se construise, parce que je voulais quand même faire une histoire qui fasse sens, parce que c'est toujours le risque avec l'improvisation, hein, c'est qu'on puisse partir dans tous les sens. Et donc, c'est un récit qui m'a permis de... Même si le dessin est très brut, très, très minimal, pour le coup, et puis c'est du noir et blanc, enfin, c'est beaucoup plus brutasse, quoi. Mais ça m'a permis de prendre confiance, parce qu'il ne faut pas faire ça, normalement. C'est pas mon premier livre, mais bon, normalement, il ne faut pas se lancer dans des grands projets comme ça, très, très longs, à l'arrache. Enfin, c'est le truc que tous les vieux pros disent, ne faites surtout pas ça, commencez par des récits courts, machin. Et moi, j'ai fait vraiment n'importe quoi, mais je me suis beaucoup amusé. Et donc, ça m'a donné de la confiance et j'ai pu, comme ça, régler certaines questions de découverte. Et en même temps, il a clos quelque chose aussi. Todd, c'est la clôture presque de mes, j'ai envie de dire, de mes œuvres de jeunesse, où Les Pigments Sauvages arrivent plus à une époque, comme je disais, j'ai eu des enfants, je suis maintenant un trentenaire bien avancé. Donc il arrive sur quelque chose qui est plus... On est moins dans la découverte que dans l'approfondissement. Et donc il fallait que Todd close quelque chose pour que je puisse l'ouvrir avec Les Pigments Sauvages. Mais bon, il faut quand même dire que Todd le géant fait une petite apparition dans Les Pigments Sauvages. Il est un petit peu situé dans le même univers, entre guillemets.
Gauthier, l'édition, pour toi, c'est un travail de tout temps, j'imagine. Est-ce qu'il y a des annonces aussi pour de prochaines manifestations au sein de Uchi Kuchi ?
Alors déjà, pour l'édition, ouais, cette année, j'ai franchi les 20 ans de métier, du haut de mes 41 ans, donc on peut dire que j'y ai passé une bonne partie de ma vie. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Les Pigments Sauvages est présenté en avant-première. Public Diwa, tu es
privilégié,
ouais. Et la sortie officielle, elle est le 19 août, en vrai. Et c'est le dernier gros projet qu'on publie cette année. Après, il y aura d'autres livres à partir de la rentrée, notamment avec une réédition qui est celle de Mortel Vinas de Maëlie Bernard, qui est quelqu'un qu'on connaît bien, Alex et moi. Maëlie étant la marraine du fils aîné d'Alex. C'est intéressant parce qu'en fait, Maëlie, c'est une autre forme de minimalisme. Elle fait une sorte de vaudeville très féministe et muet dans ses BD. Et en fait, elle a arrêté de faire de la bande dessinée. Maintenant, elle fait des installations, des sortes d'architecture en collage. Donc, c'est plutôt ce qu'elle viendra présenter en septembre à la galerie, tandis que son livre de bande dessinée reparaîtra. Et ensuite, après, on a toute la saison des festivals qui va commencer. Donc, on me verra beaucoup moins souvent dans le Diwa le week-end, parce que je serai par Mons et par Vaux. Et on a deux derniers livres, donc une autre réédition, un autre livre muet, un livre un peu fondateur du catalogue, Poisson Gélatine, d'Étienne Savoie. Alors, Étienne Savoie, il était présent à Saillant toute la semaine dernière, dans une boutique dont je ne connais pas le nom, mais en tout cas il présentait ses gravures, et puis ses gravures sont aussi visibles à la galerie. C'est quelqu'un qui dessine beaucoup pour le mensuel CQFD. Je crois même que c'est lui qui a fait la couverture du numéro d'été, et c'est le cofondateur de The Uchi Kuchi. Donc lui, il a arrêté il s'est un peu éloigné de la bande dessinée et de l'édition, en tout cas sous cette forme là mais on reste très très amis, et je suis excessivement content de revoir paraître son Poisson Gélatine. Et enfin, on finit avec un bouquin une BD d'auteurs danois, Søren Mosdahl et Jacob Ørsted. BD assez trash qui s'appelle Gogossan et qui se présente comme une espèce de guide Michelin d'auberge cannibale et de restaurant scatophile. Voilà, on est très éloigné des Pigments Sauvages.
Justement, c'est un, comment on appelle ça, un challenge de pouvoir éditer un livre de cette dimension dans son épaisseur. Et puis aussi la qualité du travail, c'est-à-dire que c'est une reliure par cahier hein, aussi.
Alors donc là, on est en train de parler de Todd le Géant, qui est effectivement une brique. Il faut peut-être, parce que c'est pas facile à visualiser, il faut imaginer un Todd le Géant, c'est un livre assez petit en termes de format, c'est-à-dire c'est un gros A6, quoi.
Fait 11 cm par 23, je crois.
Voilà, mais qui est presque aussi épais qu'il est large, quoi. C'est-à-dire c'est une brique. En plus, il est orange vif. Et il a une reliure apparente, donc au fil, cousu au fil, qui est orange fluo lui-même, donc qui est complètement raccord avec la couverture, avec la jaquette qu'on peut retirer pour éviter qu'elle s'abîme. Et donc le livre peut être ouvert vraiment à 180 degrés, il ne s'abîme jamais, il est increvable. Donc c'est vraiment une brique. Et ça, je vais passer la main à Gauthier, parce que ce sont des... Moi, je suis arrivé avec mes petites cases mises en page, là, par 6, hein, mais je n'avais aucune idée d'objet. Donc c'est Uchi Kuchi qui a eu toutes ces idées-là, donc je vais laisser Gauthier un petit peu en parler.
C'est vrai que nous, sur le catalogue de The Uchi Kuchi, on n'a pas de collection. La façon dont on envisage chaque projet, c'est de trouver le meilleur écrin possible au projet proposé par l'auteur ou l'autrice. Ça implique pas nécessairement de faire des choix. Enfin, parfois, le plus simple, c'est le mieux, hein. Donc on a des livres comme ça qui n'ont pas une fabrication excessivement poussée ou
raffinée,
ou en tout cas exubérante. Néanmoins, quand on reçoit un projet de 1008 pages, Déjà, en fait, il y a des questions qui commencent à se poser assez naturellement. Alors, c'est assez intéressant parce que le procédé de la reliure ado à parents, on l'avait déjà utilisé précédemment sur un livre qui s'appelle La Punaise, qui est une adaptation en gravure sur bois d'une pièce de Vladimir Mayakovsky par une artiste d'origine russe qui s'appelle Masha Poinder. C'est une réédition d'un livre des années 80 qu'on avait déjà dans nos bibliothèques, nous, la première édition. Et sauf qu'en fait, elle a fait des gravures qui couraient sur des doubles pages. Mais dans la première édition, en fait, c'était une reliure classique. On ne pouvait pas l'ouvrir en entier. Donc nous, on a eu cette envie-là de faire une reliure ado apparente qui permet une ouverture complète pour vraiment apprécier les doubles pages. Le souci qui s'est posé, c'est qu'on n'avait pas fait de jaquette. Et on s'est aperçu qu'en librairie, c'était la débandade. Parce que dès que le livre en fait intégrait un rayonnage, on voyait plus que le dos et donc on voyait cette reliure apparente, donc avec les cahiers cousus et du fil. Et en fait, c'est pas, il y a aucun repère vraiment visuel pour s'accrocher au bouquin, quoi. Donc ça, c'était assez compliqué. Donc on savait que si on le refaisait, en tout cas, on utilisait une jaquette. Et puis, je sais plus à quel moment la reliure à dos apparent s'est imposée dans la fabrication de Todd. Ce qui est sûr, c'est que moi, l'un de mes écrivains favoris est Dostoïevski, qui n'est pas connu pour écrire des petits fascicules. Et j'ai eu ce problème, comme je lis le soir avant de m'endormir, j'ai eu ce problème un paquet de fois de m'endormir sur ma lecture. Le livre me tombe sur le coin du nez et je suis incapable de retrouver ma page. Et tandis qu'avec ce truc... En fait, une fois que j'avais testé le procédé de reliure à dos apparent, je me suis dit, mais... S'il faisait ça sur les bouquins de Dostoïevski, ça serait tellement plus simple. Et du coup, effectivement, assez vite, quand on a commencé à réfléchir à la forme du projet de Todd, on a été plusieurs à penser que c'était l'évidence même, quoi. Et après, je trouve ça génial de se dire que voilà, on a un livre de plus de 1000 pages dans le catalogue, quoi. Du coup, à côté de ça, Les Pigments Sauvages paraît presque classique alors qu'il ne l'est pas.
Comment s'appelle ce ruban qui permet de marquer la page ?
Ça, c'est un signet.
Un signet, voilà. Eh bien, l'heure est passée. On peut rappeler donc cette ouverture à partir du 28 juillet à Uchikuchi de l'exposition de planches de bande dessinée d'Alex Chauvel qui concerne les pigments sauvages. Est-ce qu'il y a un site internet, Alex, personnel ?
Oh, il n'est pas à jour, mais oui, alexchauvel.com, il faut que je le mette à jour, il faut que je travaille là-dessus. Sinon, j'ai un compte Instagram, comme tous les jeunes.
Il suffirait de taper sur un moteur de recherche, oui. On le trouverait assez facilement.
Oui, hein. On peut me trouver, je ne suis pas compliqué à trouver. Ouais.
Et puis, Gauthier, toi, pour The Uchikuchi, donc
www.theochoocochie.com. Je recommence ?
Je crois que ça ira. Eh bien, Alex Chauvel et Gauthier Ducatier, je vous remercie tous deux d'être venus nous parler de cette édition donc des pigments sauvages. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Au revoir.